J'aimerais introduire cette méditation, cette prédication avec un texte qui se trouve dans Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Actes 19, versets 1 à 7. Où nous lisons, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra là quelques disciples, les disciples de Jean le Baptiste, et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Paul dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, et il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. » Alors vous avez peut-être remarqué, si vous suivez, que nous avons eu des fois deux interventions sur le Saint-Esprit, son action, qui il est. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série et nous allons parler du Saint-Esprit et sa direction. Alors j'hésitais entre sa direction et nos décisions, parce qu'en réalité, les deux sont très liés. Nous allons voir que il n'y a aucune communion possible sans le Saint-Esprit. Et puis nous verrons le problème de ces disciples de Jean. Et enfin, nous terminerons en nous posant la question, comment le Saint-Esprit nous conduit-il? Un grand débat dans l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit. Un débat assez large. Il y a ceux qui affirment des positions très tranchées sur une vie en pleine relation avec lui. D'autres qui sont beaucoup plus, qui contestent cela, et d'autres qui sont beaucoup plus prudents et un peu dans le flou. Mais il y a un point sur lequel nous sommes et nous devons être absolument tous d'accord. Il n'y a pas de communion possible sans le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que Dieu est saint. 3 fois 5, Esaïe, le développe. Et en réalité, ce sont vos fautes qui dressent une barrière entre vous et Dieu. Ce sont vos propres péchés qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Notre communion avec Dieu est brisée depuis Adam et Ève. Alors j'ai lu un article assez intéressant qui parlait de l'anthropocène. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un mot un peu bizarre, qui est une réflexion et un principe qui affirme que depuis que l'homme est sur la terre, il dévaste la terre. Ça rejoint ce que dit la Bible. Depuis que l'homme a été touché par le péché, il dévaste la terre. Et d'après les spécialistes, ça fait depuis à peu près 5000 ans. C'est bizarre, on n'est pas loin de la généalogie biblique. L'homme est pécheur. Il est tellement pécheur que Michée ajoute, le meilleur d'entre eux est comme une ronce, et l'homme droit est pire qu'un buisson d'épines. Bon, ça ne nous fait pas plaisir si nous sommes humanistes et que nous pensons que l'homme est bon. Mais la Bible affirme le contraire. L'homme est pécheur. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir convaincre l'homme de cela. Si vous pensez que tous vos arguments vont convaincre quelqu'un de cela, laissez-moi vous dire que vos arguments et nos arguments restent charnels. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, l'homme ne prend pas conscience de son état de péché. Et là-dedans, il y a une intervention de Dieu. Il nous faut obtenir ce pardon. Il nous faut obtenir le pardon de Dieu. C'est une nécessité absolue. Nous ne pouvons pas aspirer à quelconque communion avec Dieu si nous n'avons pas ce pardon. Ah, c'est un peu comme la vie des couples, hein? Tout baigne tout le temps. Pas toujours. Il y a des moments sombres, des moments où nous passons par les tempêtes, où nous prions pour notre conjointe, ou nos conjoints, je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, il faut arriver au pardon. Sinon, nous n'avançons pas. Le pardon, eh bien, il est dit dans Actes 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, pas à certains, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Et il n'y a pas de pardon sans repentance. Vous avez déjà essuyé le pardon de quelqu'un qui vous dit « Oh, mais ça va, c'est pas grave, allez, je te demande pardon. » Ça vaut pas grand-chose. Hein? Souvent, c'est pour se débarrasser de quelque chose ou pour passer à autre chose. Mais le pardon de Dieu s'est exprimé à la croix. Quelqu'un a payé pour nous. C'est ce que nous avons rappelé ce matin aussi avec la Sainte Cène. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Christ est venu sur terre, il est mort à la croix, pour que nous puissions nous réconcilier. Il est ressuscité pour valider ce qu'il a fait. Il est à la droite du Père et il va revenir. Mes frères et sœurs, c'est la formule du christianisme. Voilà ce que nous devons croire. Vous connaissez le chant, hein? Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, à la maison du Père, la couronne m'est offerte à ma foi. Voilà le christianisme, voilà ce que nous devons croire, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a eu la victoire sur le diable, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, et qu'il nous a réconciliés avec le Père, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Désormais, la communion avec Dieu devient possible par la foi, si nous le reconnaissons. Je sais que c'est un rappel de catéchisme. Peut-être que vous vous êtes mis en mode pilote automatique. Mais nous savons tout cela. Laissez-moi vous rappeler que ce que disait notre cher frère Pierre Moulinengo, la justification par la foi est le point de départ de toute expérience spirituelle. Si tu n'as pas compris que Jésus a pris ta place, et que devant le trône de Dieu, devant le jugement, eh bien c'est lui qui te représentera, tu ne peux aspirer à aucune expérience spirituelle chrétienne. En lui, Jésus nous dit Éphésiens, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est ce que Paul a annoncé. Et voilà que sur son chemin, il rencontre 12 gars, mais des gars, des types qui sont super, hein, des gars qui sont droits, fidèles. Ils ont persévéré avec un enseignement de Jean-Baptiste. Mais ses disciples avaient un problème. Peut-être que c'est aussi le problème de quelqu'un parmi nous ce matin. Bien qu'ils aient persévéré, bien qu'ils aient été fidèles pendant, vous savez depuis combien de temps Jean était mort quand Paul parle à ses disciples? 25 ans. Voilà des gens qui ont persévéré pendant 25 ans et qui n'avaient pas fait une expérience spirituelle authentique. Ils n'avaient pas reconnu que Jésus était celui dont Jean parlait. Ils étaient toujours dans l'attente de quelque chose qui allait transformer leur vie. La réception du Saint-Esprit ne peut pas se faire si nous ne reconnaissons pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, peut-être que vous avez noté, quand ils ont dû entendre cela, Paul leur a expliqué, ils savaient exactement leur position parce que lui aussi était dans cette attente en tant que pharisien. Et quand ils ont commencé à discuter avec lui, il nous est dit que ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ et ils ont reçu l'imposition des mains de la part de l'apôtre. Et là, ils ont parlé en langue. Ah, dossier épineux. C'est un dossier qui a divisé les chrétiens pendant des décennies. Mon frère, ma sœur, l'Église de Christ doit avancer, n'est-ce pas? Mais si nous ne regardons pas les erreurs du passé, nous n'avancerons jamais dans le bon sens. Les erreurs de nos aînés a été de se dresser les uns contre les autres. Il y avait les pour parler en langue et les contre parler en langue. À tel point que des assemblées et des représentants ont déclaré que ceux qui ne parlaient pas en langue n'étaient pas des vrais chrétiens convertis. Et en face, évidemment, on déclarait que ceux qui parlaient en langue étaient possédés. C'est allé tellement loin que l'Église, le corps du Seigneur, était divisée. Il a fallu attendre dans les fins années 80-90 pour qu'en Afrique du Sud, ces deux parties viennent se mettre à genoux devant le Seigneur et se demander pardon. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Le problème n'est pas là. Le problème est celui-ci. Si mon frère, ma sœur, après 25 ans de vie chrétienne, tu ne vois pas de changement dans ta vie, d'expérience spirituelle, tu as besoin de revenir au point de départ. Merci, ma sœur. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Le point de départ, la justification par la foi. Il était là le problème des disciples de Jean. Je vous conseille ce livre de Dieu oublié de Francis Chan, où il écrit ceci. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit si vous voulez un petit Jésus pour spiritualiser votre vie. Juste un petit supplément de Dieu pour ne pas aller en enfer. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit si vous vous contentez de vivre une morale à géométrie variable et même d'aller à l'église régulièrement. Toutes sortes de gens dans différentes religions font exactement la même chose sans besoin du Saint-Esprit. Alors peut-être on peut se dire, mais moi je regarde qu'à Jésus et je suis que pour Jésus. Lui, peut-être, n'a-t-il pas vécu avec ce Saint-Esprit qui est venu après. Eh bien, il est intéressant de voir la présence et l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Déjà, dès sa naissance, à l'annonce de sa naissance, l'ange dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Ah, mon frère, ma sœur, Jésus est né par le Saint-Esprit. Et nous sommes des nouveaux-nés spirituels, par le Saint-Esprit. Il est dit que après le baptême formidable de Jésus, où le ciel s'est ouvert, il est dit tout de suite après, Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais avait-il besoin du Saint-Esprit? N'était-il pas Dieu fait homme? On aurait pu dire non, il n'avait pas besoin. Mais le Seigneur nous montre que par son expérience, il n'a pas fait l'économie d'une vie sans l'Esprit de Dieu. Jean 4, plus tard, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Verset 14, « L'Esprit du Seigneur, dit-il, est sur moi. » Verset 18, pardon. « Parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libres les opprimés. » Voilà comment Jésus a vécu avec le Saint-Esprit. Or, si lui l'a fait, à combien plus forte raison devrions-nous le faire? Et les apôtres ont retenu cela. Et ils ont dit, acte 10, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous ne pouvons pas faire l'économie du Saint-Esprit. Et c'était là le problème des disciples de Jean. Alors comment est-ce qu'il nous conduit? Eh bien, il nous conduit d'abord en nous orientant toujours vers Jésus. Il ne nous orientera jamais sur un leader spirituel. Jamais vers un homme. Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire à ce jeune homme riche qui a dit qu'il était bon, Dieu est bon, bon maître. Qu'a répondu Jésus? Il n'y en a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Aucun homme sur cette terre serait-il le plus édifié, sanctifié, ne sera bon comme Dieu l'est. Il nous dirigera toujours, nous orientera toujours vers Jésus. Il est important pour nous, quand nous pensons à des décisions à prendre, quand nous sommes à des carrefours de notre vie, ou même dans nos journées, de sonder les motivations internes que nous avons. Prendre un temps d'intimité avec Dieu, notre attitude naturelle, en réalité de porter nos regards sur nous-mêmes, c'est tout à fait naturel, de chercher notre propre intérêt. Le Saint-Esprit détache notre regard de nous-mêmes pour le diriger vers Dieu, vers Jésus. Jean 16, 14, « Lui me glorifiera, dit Jésus. » Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, quelque chose revient de manière incessante, de manière régulière, concernant les sept églises, nous retrouvons ceci. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a à dire aux églises. L'Esprit parle. Et quand il parle à toutes ces églises, il leur demande de regarder à Jésus. Son œuvre est douce, son œuvre est discrète, mais elle est aussi puissante en direction de Jésus. Son but est de faire grandir en nous l'amour de Jésus. Jean-Baptiste a très bien dit, il faut que je diminue et il faut qu'il grandisse. Et c'est comme ça que les apôtres ont commencé à évangéliser. Ils sont parfois arrivés dans des moments où ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu. Alors, au lieu de continuer en Asie, ils ont voulu aller un peu plus au nord. Et là, que fait le Saint-Esprit? Eh bien, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mais il les a dirigés vers la Macédoine, vers l'Europe. Imaginez un instant s'ils avaient désobéi au Saint-Esprit. Eh bien, ça aurait freiné, je pense, la progression de l'Évangile dans le monde. C'est parce qu'ils avaient l'habitude d'écouter, d'entendre sa voix. Avons-nous l'habitude, nous, de comprendre que c'est la voix du Saint-Esprit qui nous dit quelque chose? Avons-nous pris cette habitude de cultiver cela? Eux, ils en avaient l'habitude. C'est celui qui renouvelle notre intelligence, dit Romains 12. En plus, ça a été validé, pas parce que c'était juste une idée exubérante, mais cela a été validé par une vision qu'ils avaient reçue de Macédoniens qui les appelaient au secours. Sais-tu discerner la voix du Saint-Esprit? S'il te dirige vers Jésus, dans ta décision, dans tes directions, c'est la bonne direction. Comment glorifier Jésus quand tu as une décision à prendre? La deuxième des choses, c'est que le Saint-Esprit nous conduira toujours, toujours dans la vérité. C'est un esprit qui ne peut tolérer le mensonge. Il est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Contrairement au diable, qui est meurtrier, qui est menteur, depuis le commencement, la vérité ne se tient pas en lui. L'Esprit de Dieu est saint, l'Esprit de Dieu est pur, L'Esprit de Dieu est lumineux. Lorsque nous, nous tolérons des sentiments qui sont contraires à la vérité, alors nous l'attristons. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et un des tristes versets de la Bible, avertissement, n'éteignez pas l'Esprit. Rav Chalis disait ceci. Cela peut arriver non seulement à des individus, mais aussi à des églises, à des communautés, à des mouvements spirituels. L'Esprit de Dieu est très patient, très compatissant. Il fait l'impossible pour nous amener à l'obéissance, mais il ne nous y force pas. Et il ajoutera, c'est la chose la plus tragique qui puisse arriver à un chrétien ou à une communauté. Si nous ne voyons plus la vérité, si nous ne marchons plus dans la vérité, si nous mêlons la vérité au mensonge, alors le Saint-Esprit s'attriste et il s'éteint. Il y a quelques dimanches, un frère qui n'est pas là parmi nous ce matin, était très alourdi. Et en discutant avec lui, quelque chose pesait dans son cœur, une charge spirituelle qu'il avait. Et en discutant avec lui, il me dit, je ne comprends pas pourquoi les gens consultent l'horoscope. Alors, pour plaisanter, je lui ai dit, tu sais, moi je suis superstitieux, donc je ne consulte pas l'horoscope. Mais ça n'a pas fait rire. Ah, tu vois, de quoi Colette, ça ne marche pas. Et en fait, ce frère me disait, mais je ne parle pas des gens, je parle de ceux qui connaissent Jésus. Et je suis tombé de haut. Et il me dit, j'aimerais bien me poser la question dans les assemblées chrétiennes et leur demander combien parmi vous consultent les horoscopes ou l'horoscope. Parfois, il y en a plusieurs. Mon frère, ma sœur, ceci est incompatible avec la vérité de la parole de Dieu. Il y a, vous savez, des choses que nous héritons, hein, du côté de ma mère, c'est des Arméniens, nous héritons à base du commerce, pas que. Il y a une coutume qui se faisait, que j'ai revue moi par la suite en tant que pasteur chez des familles, et j'ai compris comment appeler. Vous savez, c'est le marc de café que l'on retourne. Hein. C'est super, hein. L'invité est là, et la maîtresse de maison vous sert le café, elle retourne le marc de café pour lire votre avenir. Ah, et c'est ça, il y a des habitudes. Vous savez, il y a aussi, on était dans une assemblée où le pasteur était, il y a une assemblée où il y avait beaucoup de malgaches, et le pasteur parlait souvent des retournements des morts. Vous savez pas ce que c'était. Et on a appris que c'était des coutumes qui étaient occultes, que les chrétiens pratiquaient. Alors laissez-moi vous dire que il y a tout ce que nous avons hérité de nos pères, dont nous avons besoin de mettre sous la lumière de la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit de nous convaincre. Il y a des choses qui ne peuvent pas être compatibles avec la foi en Jésus-Christ. Il y a les coutumes que nous héritons, il y a les coutumes qui viennent d'ailleurs. J'ai été surpris de voir qu'il y a 25 ans, il y avait une grande mobilisation de chrétiens contre Halloween. Maintenant, il y a, peut-être je suis pas dans la boucle des mails, mais cette année, j'ai pratiquement rien reçu. Et je pense que si Halloween a eu du mal à percer en France, c'est parce que des chrétiens ont prié pour cela. À Bourg-les-Valence, il y avait la mère. Madame le maire avait organisé, ou la mairesse, avait organisé le week-end de l'étrange avec des quarantiers de voyants. Et on attendait du monde. Et ils attendaient du monde. C'était l'idée d'une adjointe à la mairie. Nous, en tant que chrétiens, on s'est dit, ah, ça va loin quand même, c'est la mairie, hein. Et nous sommes allés là-bas, devant le chapiteau, devant ce lieu qui était prévu pour cela. Et nous avons prié. Et je vous assure qu'on s'est dit, est-ce que ça peut faire quelque chose? Seigneur, voici nos 5 pains et nos 2 poissons. Toi, fais le reste. La première année, il est tombé des trombes d'eau. Alléluia. La deuxième année, il a fait un soleil radieux après 2 semaines, bien fraîche et les gens envient de l'extérieur. Alléluia. La troisième année, ça a été un fiasco financier, ce truc. Alléluia. Et ça a fini par fermer. Parce qu'on a quand même expliqué aux autorités religieuses, enfin aux autorités, pardon, civiles et politiques, qu'il y avait quand même là un danger. Et vous savez, on ne nous présente jamais les choses de manière dangereuse. Le packaging du mensonge. Alors moi, je fais attention quand j'achète quelque chose, je fais comme vous. Je prends celui qui me paraît de meilleure qualité, n'est-ce pas? Et celui qui est de meilleure qualité, en fait, il n'a pas forcément un beau packaging, donc je me fais avoir. Eh oui, instinctivement, nous regardons au packaging. C'est bien fait, inoffensif. Vous savez, c'est comme Walt Disney. C'est facile à reconnaître les méchants dans Walt Disney. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Et les gentils, ils sont beaux. Mais c'est pas la vie, ça. C'est loin d'être la vie. Pour conjurer la peur, on s'amuse à faire peur. Nos contemporains craignent la peur. Alors, on veut les rassurer. Nous nous interpellons à la crainte de Dieu. L'enfer et les démons ne sont pas des jeux. C'est une réalité terrifiante. Allez demander aux prêtres qui s'occupent de l'exorcisme et aux pasteurs le nombre croissant de personnes qui ont de vrais problèmes spirituels parce qu'ils ont touché à l'occultisme. Allez juste prendre un petit moment après la sortie pour demander à Laurine l'impact de l'occultisme dans la vie de quelqu'un. Bien sûr, il ne faut pas être des chrétiens légalistes. Ah, c'est péché. Ah, faut pas faire, n'est-ce pas? Parce que le légalisme est contraire à l'esprit de Dieu. Mais il faut être comme les Juifs de Béret. Ouvrons la Bible et regardons ce que la Bible dit. Et expliquons aussi à nos enfants. Et les parents sont un peu, des fois, pris en otage parce que le petit bambino, il est invité. Et comment on va faire? Hein? Eh oui, va-t-il y aller, va pas aller, dans le cadre d'Halloween. En tout cas, une chose est sûre, nos enfants sont capables d'écouter nos explications. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, alors je ferai les choses qui lui plaisent. Et j'aurai en horreur celles qu'il considère comme dangereuses et qui pourraient l'attrister. Alors soumettons nos décisions à la vérité de Dieu. Et puis, enfin, le Saint-Esprit nous dirige sur le chemin de l'amour. Ah, l'amour. Ne confondons pas avec nos émotions. L'amour est dans le pré. C'est sympa. On s'aime. On s'amourache l'un pour l'autre. Non, je regarde pas, désolé. Mais chaque fois que je regarde des petits extraits, je me dis, mais ce n'est pas ça l'amour. Nos émotions peuvent nous pousser à des actions de manière naturelle, et peut-être que nous devons, nous, en tant que chrétiens, résister à cette tendance, vous savez, de vouloir faire à la place de Dieu. Ah. Pour savoir si nos décisions sont selon Dieu, réfléchissons aux conséquences qu'elles vont produire. Soumettons nos décisions au crash test de l'amour. L'amour, dit l'apôtre Paul, les fruits de l'esprit. Hein? Les fruits de l'esprit, le fruit, pas les fruits, le fruit est l'amour. Si vous avez de bons yeux, sinon, ophtalmo cette semaine. Après l'amour, la joie, après. Voilà. Devant vos décisions, dites-vous, est-ce que cela va produire ces qualités dans ma vie? Si je dois prendre une décision, est-ce que cela va me produire de la joie? Est-ce que cela va m'aider à aimer plus? Est-ce que cela va m'apporter la paix? Ou la patience, ou la bonté, ou la bienveillance? Quel impact cela va-t-il avoir dans ma vie? Le Saint-Esprit veut nous diriger sur le chemin de l'amour. Pour vous donner une idée, on ne va pas chercher les synonymes, on va chercher les antonymes. Le contraire de l'amour, c'est la haine, l'amertume, la froideur spirituelle. Si dans tes relations avec qui que ce soit, ta décision entraîne ceci, c'est pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est clair. Contraire de la joie, l'abattement, la tristesse. Alors le contraire de la joie, c'est pas la souffrance, hein. On peut souffrir terriblement et être au fond de nous-mêmes dans une relation avec Dieu qui nous porte. Contraire de la paix, conflit, animosité, division. Quand mon être charnel croise ton être charnel, ça produit ça. C'est très clair. Vous n'avez pas vu mon être charnel. Mais il n'est pas beau à voir. Le vôtre non plus. Hein. Eh oui, le tien non plus, mon frère, ma soeur. C'est cela que le Saint-Esprit veut travailler dans nos vies. C'est ce qu'il veut changer. Contraire de la patience, c'est agir de manière impulsive. Ah, quel manque de foi. Qui a agi de manière impulsive dans la Bible? Il y en a, hein? Moïse, ah, Moïse. Vous voulez de l'eau? Ben, ce rocher va vous donner, voilà, hein, de sortira. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Ben, pas de terre promise. Il a prié, supplié Dieu, il s'est lamenté devant Dieu, comme nous le faisons parfois. Et que dit Dieu? Non, Moïse, cela a manqué de patience. Et la patience, manque de patience, c'est un manque de foi. La bonté, ah la bonté, l'antinomie de la bonté, c'est l'intransigeance, c'est la cruauté. Je lui en veux, je lui en veux. Vous savez, c'est pas l'âge qui résout les problèmes, hein. Moi, j'ai vu des gens aux portes de la mort me dire « Ah, mon frère, je lui en veux, je lui en veux !» Ben, ce sera pas pour longtemps, hein, ça sera fini après. Mais tu vas partir avec ça? La bienveillance, le contraire de la malveillance, c'est la malveillance, l'agressivité. Contraire de la fidélité, la trahison, la mauvaise foi. Contraire de la douceur, la colère, la vengeance. Contraire de la maîtrise de soi, le manque de modération. Saint-Esprit porte nos motivations, nos décisions sous la lumière de l'amour. Qu'est-ce qu'il en ressort? Si nos décisions vont produire le fruit de l'Esprit, alors là nous sommes remplis de sa présence. Ces antonymes sont le domaine d'expertise du diable. Et quand il nous voit là-dedans, comme on dit à Marseille, il se régale. Ah, il se régale. Il nous voit patauger, il nous voit... Ah là là, n'est-ce pas? Quand nous ne marchons plus selon l'esprit, cela se voit. Une colère qui s'exprime, une discorde, des envies, rancunes. Mais si le Saint-Esprit est en nous, alors dépêchons-nous de venir à lui et mettre cela sous sa vraie lumière. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? 25 ans de vie spirituelle sans aucun fruit. 25 ans. Le chrétien ne peut pas perdre l'Esprit, j'en suis convaincu, avec lequel il a été scellé. Mais il peut perdre quelque chose. Il peut perdre sa puissance, de sa joie, de son zèle. Peut-être que quelque chose freine ta vie spirituelle. Peut-être qu'il y a une situation qui dure, mais depuis tant d'années, où tu n'arrives pas à te libérer de ce fardeau et ce besoin de pardon qui est là. Et qui est là et qui ne se fait pas. Peut-être qu'il y a une addiction particulière, un comportement compulsif, une addiction à la pornographie, ou une crainte, ou un mensonge qui t'entretient là-dedans. Peut-être tu as certainement envie d'être libéré, peut-être une mauvaise estime de soi. En tout cas, le Seigneur veut t'accorder la délivrance et sa paix par le Saint-Esprit. Oh, cela prendra certainement du temps. Il te demandera, non pas de le regarder passivement, il te demandera ta persévérance, ton accord et ta participation. Ce processus de sanctification est l'affaire de toute une vie. Saint-Esprit vit en nous, vit avec nous. Et comment vivons-nous avec lui? Est-ce que nous lui résistons? Est-ce que nous pensons que nous sommes orphelins? Sachant que nous avons été scellés. Et vous savez ce que c'est? Ce sceau, c'est le signe de la propriété. Ainsi, le Seigneur te rappelle ceci. Parce que tu es sa propriété. Tu es son enfant, son fils ou sa fille. Il te dit ceci, tu es à moi. Tu es à moi. C'est pour ma gloire que je t'ai créé, Ésaïe 43. Sois sans crainte, crois seulement, Marc 5. Je t'aime d'un amour éternel, Jérémie 31. Car nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Éphésiens 2. Je viens à ton secours, Ésaïe 41. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mon frère, ma sœur, ma prière, ma sincère prière, c'est que nous puissions vivre les expériences spirituelles et abondantes que le Saint-Esprit a pour chacun de nous, pour la seule gloire de son nom, et pour proclamer que Jésus-Christ est l'unique et le merveilleux. Amen.